Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Demain dimanche, en Bavière, les électeurs sont appelés à renouveler leur parlement régional. Une élection clé, un test pour la coalition au pouvoir à Berlin. Une coalition brinque-ballante entre une chancelière affaiblie à la tête de son propre parti, la CDU, et la CSU du ministre de l'Intérieur, le bavarois Seehofer, qui n'a pas hésité à emprunter à l'extrême droite des arguments contre l'immigration. La Bavière est l'un des Länder les plus riches d'Allemagne, là où le chômage est au plus bas, où l'intégration d'une main-d'œuvre immigrée indispensable à l'économie locale s'est faite sans heurts. Mais le brouhaha des débats berlinois, la surenchère de l'extrême droite, la montée des Verts qui se posent en recours, risque demain de modifier les rapports de force traditionnels. Jusqu'à quel point donc les résultats bavarois vont-ils compliquer un peu plus encore la vie d'Angela Merkel, dont beaucoup de commentateurs outre-Rhin prédisent le crépuscule politique? Quels sont les enjeux à venir, notamment à l'est du pays, où l'extrême droite monte en flèche, comme si, après 28 ans, la réunification n'avait pas fait son œuvre? Quelles incidences aussi pour l'Europe et en particulier pour les projets de réforme voulus par Emmanuel Macron? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Claire de Mesmé. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour de vrai à Paris. Vous êtes la responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère. Anne Stark, secrétaire générale du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Vous enseignez aussi à l'université. Bonjour. Paris 4. En duplex de Stuttgart, et nous l'en remercions, Henrik Utterwede, politologue, chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui ont lieu, comme chacun sait, ce week-end, Nicolas Offenstadt, historien, maître de conférence à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Claire de Mesmé, je crois qu'une consoeur de l'ARD a intitulé son programme de son débat télévisé hier ou avant-hier « La Bavière vote et Berlin tremble ». Alors c'est très curieux parce que vu d'ici, on a l'impression que la Bavière, c'est véritablement la prospérité, la stabilité. C'est, je crois, le taux d'insécurité le plus bas d'Allemagne. Donc qu'est-ce qui peut à ce point faire frémir tous ceux qui s'intéressent à la politique intérieure allemande?
Oui, vous avez tout à fait raison. La prospérité de Bavière n'est pas seulement une réalité vue d'ici, vue de France. C'est une réalité également ressentie en Bavière. On a une prospérité, il y a une population qui va bien dans l'ensemble, qui va même très bien, taux de chômage faible. Mais il y a aussi le sentiment que ça peut aller moins bien. Ça peut toujours être pire. Quand ça va bien.
Mais ça, et puis, c'est vrai pour tout le monde.
C'est vrai pour tout le monde. Et il y a deux éléments qui, je crois, sont importants pour la Bavière. Le premier est de voir la crise d'autorité politique aujourd'hui avec un parti conservateur ou une alliance conservatrice, donc la CDU et le parti frère, la CSU, qui ne s'entendent pas, qui, depuis l'élection de septembre dernier, Deux partis qui ne sont pas capables de trouver une ligne directrice. Donc ça, évidemment, ça fait désordre, ça dérange. On est en perte de crédibilité politique. Il y a aussi un autre élément qui est plus profond, je crois, qui traverse la société allemande depuis un moment. C'est la question des valeurs conservatrices. La Bavière est un Land qui est particulièrement conservateur depuis des décennies, davantage que dans la moyenne du pays.
Et la CSU gouverne la Bavière en gros depuis un demi-siècle.
Oui, exactement. La CSU est au pouvoir à la majorité absolue depuis 1962. Il y a eu une exception en 2008, mais la parenthèse a vite été terminée. La CSU est en position dominante depuis les années 60. Donc c'est aussi ce qui fait que cette élection est une élection test.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une telle usure et parce que la personnalité même de Seehofer a fini par lasser, parce qu'il a provoqué au moins deux crises gouvernementales à Berlin pour pour pas grand-chose.
Oui, mais c'est pas seulement lié à Zerofa. En effet, Zerofa, en tant que ministre à Berlin, joue un rôle, puisqu'il y a, cette question de la mésentente que j'évoquais entre les deux partis, la CDU, la CSU, qui sont deux partis frères, mais qui sont quand même différents, qui ont quand même des valeurs, il y a des nuances entre les deux. Donc oui, la question de l'autorité politique, de la crédibilité du pouvoir, il y a ça. Il y a la question des valeurs conservatrices qui sont aujourd'hui mises à mal par une ouverture libérale qui traverse la société allemande comme toutes les sociétés occidentales, donc qui crée en retour des crispations. Et à ça s'ajoute la question migratoire, la question de l'identité nationale régionale. Importante pour
la
Bavière.
Et là, Zerofa s'était carrément aligné sur des arguments de l'extrême droite.
Oui, Zerofa, et puis le ministre-président en Bavière, Zöder, qui a fait campagne durant toute durant les derniers mois sur les thèmes sécuritaires, sur les thèmes migratoires. C'était vraiment son champ de bataille, l'approche principale pour Zöder. Sur des thèmes qui ont été ceux de l'AfD depuis 2015. 15 en réalité.
Et ça, c'était en fait une mauvaise tactique, parce que du coup, la CSU a perdu du terrain.
C'est une tactique qui ne paye pas. D'un point de vue électoral, on verra bien ce que donneront les résultats, mais en tout cas, dans les sondages, ça ne marche pas et la CSU est en perte de terrain. Si elle n'a pas la majorité absolue,
ce qui est vraisemblable,
ça s'annonce. Hein. En effet, ce serait un choc pour ce parti-là et ça lancerait toute une discussion. Qui existe déjà, ça ne lancerait pas. La discussion est là sur l'avenir de ce parti, sur son positionnement idéologique.
Henrik Unterweide, jusqu'à quel point est-ce que la mésalliance, la mésentente entre les deux formations conservatrices, donc la CDU et la CSU, j'ai même vu que Mme Merkel n'avait pas été invitée au dernier meeting électoral de la CSU. En revanche, le chancelier d'Autriche, M. Kurz, qui, comme on le sait, gouverne avec une coalition avec l'extrême droite, lui était l'invité d'honneur. Cette mésentente, elle accentue en quelque sorte l'insatisfaction vis-à-vis des partis traditionnels en Allemagne ?
Ben, tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, enfin, pendant très très longtemps, quand CDU et CSU, face aux sociodémocrates dans le gouvernement, affichaient plus ou moins la même posture, un peu plus conservatrice, plus libérale, contre l'agenda social-démocrate. Alors que là, maintenant, on se rend compte qu'on est vraiment en présence d'une coalition à trois, où les deux partis dites partis frères sont pires que, enfin, vous connaissez les boutades sur les amis politiques, surtout 30 ans ou plus, c'est la petite guéguerre entre les deux. Et c'est vrai que la CSU en Bavière joue du ressentiment anti-Berlin pour sauver sa peau.
Et là, ça ne marche plus aussi bien qu'avant, mais le SPD aussi, en Bavière, est en baisse très forte.
Je voudrais bien vous donner deux, trois, enfin vraiment quelques chiffres. Là. Les derniers sondages en Bavière, ça, en gros, c'est quoi ? C'est la CSU dégringolade, moins 14%, si ça se... Le SPD, moins 8%. Et donc, c'est 22% de moins pour les deux partis qui co-gouvernent à Berlin. Mmh. Alors, à qui profite cette dégringolade des deux partis, donc moins 22? Et c'est là que c'est intéressant. AfD, plus 10.
Donc, l'AfD reste plus basse que la dernier score.
Oui, enfin, la moitié est captée par les nationaux, populistes nationaux. Donc, 10%, c'est moins que la moyenne nationale. Bon, ça peut grimper un petit peu.
Mais ça veut dire qu'ils vont quand même entrer, pardon, je vous interromps, ils vont quand même entrer au Parlement régional pour la première fois.
Tout à fait. Ils seront au gouvernement comme dans deux semaines dans la semaine prochaine en S. Donc, ils seront représentés dans tous les gouvernements régionaux. Mais la deuxième moitié donc des pertes CSU et SPD profitent aux Verts. Les Verts en Allemagne, il faut le rappeler, c'est un parti avec une culture gouvernementale.
Oui, ils sont des
Verts intelligents. Un parti de centre-gauche, ça n'a rien à voir avec ce que je vois parfois,
ailleurs,
oui. Et donc, ce qui est assez intéressant, l'élection bavière, ce n'est pas du tout sous la seule marque de l'ascension des nationaux populistes. Il y a d'autres facteurs qui jouent, comme les a évoqué Claire. Et donc, pour les retombées à Berlin, je dirais que c'est un peu mitigé. Je pense qu'Angela Merkel, elle a pris acte qu'elle n'a pas voulu, qu'on n'a pas voulu d'elle pour sauver la peau de la CSU.
Mais là, il doit y avoir un peu de Schadenfreude, vous dites.
Tout à fait, la Schadenfreude.
Elle doit quand même, de toute façon, en quelque sorte, avoir ce petit sourire en coin en voyant que M. Seehofer n'est pas en très bonne posture.
Oui, pendant les dernières semaines, là, les querelles idéologiques hallucinantes, en fait, décalées de la réalité, qui ont été montées par Seehofer et Söder et la CSU, donc elle avait toujours opposé un ton de fermeté dans les valeurs et de modération dans la politique. Et donc, finalement, si la CSU perd comme c'est prévu, elle va dire, voilà, je vous ai bien dit, c'est pas cette politique qui paye. En même temps, avoir dans son gouvernement à Berlin un parti qui a été vraiment flagellisé comme ça, ça risque d'avoir un électron libre, encore plus libre qu'auparavant. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle mauvaise surprise de la part de la CSU bavaroise, jusqu'à peut-être quitter le gouvernement. C'est pourquoi il y a Schadenfreude d'une part, mais aussi inquiétude sur la solidité et la stabilité gouvernementale à Berlin.
Hans Stark, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Il y a d'autres élections régionales à venir. On oublie toujours, vu de France, que le calendrier parlementaire allemand est très exigeant. Donc, il y a des élections, je crois, dans la Hesse, le 28 octobre.
Deux semaines, oui.
Et donc là, on voit à peu près les mêmes tendances à ce stade.
Les mêmes tendances. Donc le rejet, comme dit Monsieur Audavet à l'instant, donc le rejet de la grande coalition par l'électorat, une montée des Verts, une entrée au Parlement régional de l'AFD. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que quel sera le score de l'AFD à l'échelle nationale. Ils sont dans les sondages à 18%.
Alors qu'ils ont fait quoi, 12.
Ils ont 12,7, donc presque 13 aux élections fédérales.
Il y a un an.
S'ils font 10% Bavière, c'est certes 10% peut-être de trop, mais en tout cas, c'est un mauvais score pour l'AFD. Et cela montre, pour revenir à la Bavière, que le désordre politique dans ce Land ne profite pas aux deux partis populistes, ce qui font ensemble peut-être dans les 15%. Donc on n'est pas dans un scénario à l'italienne avec une montée parallèle d'extrême droite, de gauche. Notre France, notre Allemagne insoumise, entre guillemets.
Hein.
Ce qui profite de cette situation, c'est, on l'a déjà dit, c'est les Verts, mais c'est aussi un petit parti qui s'appelle les électeurs libres, qui sont un parti un peu anti-parti, qui viennent de la CSU, mais avec qui la CSU pourrait éventuellement gouverner. Donc je veux dire que la Bavière, c'est ce que je voulais dire là, ne va pas dériver vers le populisme à tout va non plus. Hein. Donc il faut garder cela en tête. Et peut-être que les 20%, enfin d'après les sondages, entre 18 et 20% que feront les Verts demain, va montrer qu'il y a d'abord un rejet aussi d'une politique trop populiste de droite par l'électorat CSU. Et deuxièmement, que d'autres enjeux maintenant sont importants pour la population bavaroise et puis dans d'autres régions aussi, qui n'ont rien à voir avec la question des migrations, par exemple, ou de réfugiés, comme la situation climatique, qui s'est, entre guillemets, un peu invité à la fête politique.
Je veux dire, mais on a vu à Bruxelles, il y a deux ou trois jours, au moment de la discussion intergouvernementale sur la limitation des émissions de CO2,
oui.
Où là, l'Allemagne évidemment freiné sous la pression
des lobbies
automobiles,
bien sûr. Et la population allemande n'est pas forcément pour ça. Beaucoup disent aussi aujourd'hui en Bavière que le fameux mot de Heimat, qu'on peut citer difficilement faut traduire en français, qui veut dire à la fois patrie et puis région d'où on vient. C'est pas que Allemagne avant tout, entre guillemets, mais c'est aussi des paysages, c'est aussi des forêts, c'est aussi la faune et la flore. Or, le modèle économique allemand en Bavière, qui fonctionne, est en train de bétonner complètement ce land. Et donc, beaucoup de Bavarois trouvent ça exagéré. Je donne un autre détail qui peut faire prêter à sourire. Et en même temps, on ne sourit pas quand on l'entend. 50% des insectes volants en Europe et en Allemagne aussi ont disparu. Et donc, pour un pays comme la Bavière, qui est aussi encore très rural, un pays qui a encore un environnement à peu près intact, cette situation-là est jugée intenable par beaucoup d'électeurs allemands, bavarois, donc, qui se tournent vers le parti qui, le seul aujourd'hui, défend les abeilles. Donc, ça peut faire donner un sourire, mais en même temps, c'est un vrai sujet de société.
Non, et puis ça révèle d'autres priorités, évidemment, de la part des électeurs. Nicolas Offenstadt, vous êtes historien, spécialiste des questions mémorielles. Vous êtes ce week-end au rendez-vous de l'histoire de Blois et vous avez travaillé en particulier dans les régions à l'est de l'Allemagne où l'on constate, et notamment en Saxe, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Chemnitz récemment, on constate là une très forte poussée de l'AFD, de l'extrême droite. Pourquoi ? Quel est le terreau, selon vous ?
Alors, oui, c'est vrai qu'il y a non seulement une poussée de l'AFD qui fait des scores qui sont très importants. Hein. En Saxe, c'est 27% devant même les autres partis, donc en tête. Hein, dans d'autres régions, en Saxe-Anhalt ou dans le Brandebourg, c'est autour de 20%. Donc c'est effectivement des scores très importants. Donc il y a effectivement, vous avez raison, la présence de l'AFD, mais il y a aussi tout un ensemble de groupes hein, qui sont marqués à l'extrême droite ou dans une droite extrêmement radicale qui sont aussi très actifs. Hein. Il faut rappeler que c'est en Saxe que s'est développé le mouvement Pegida, hein, ce mouvement donc anti-islam et anti-immigration, hein, qui est là aussi, qui est un terreau saxon propre. Donc il y a bien une question qui se pose en Allemagne aujourd'hui, qui est finalement qu'est-ce que c'est que cet Est, hein, qui est le terreau non seulement d'électeurs effectivement AFD, mais aussi de tout un ensemble hein, de mouvements et de groupes d'extrême droite, dont les derniers incidents à Chemnitz, mais pas seulement, hein, il y en a dans d'autres villes.
Où l'AFD a d'ailleurs manifesté avec Pegida. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit bien que la situation, elle peut être effectivement être très tendue et très compliquée parce que, bon, l'AFD, c'est composite, hein, il y a différents courants, mais il est évident hein, que dans les événements récents, il y a quand même une porosité hein, entre l'AFD et les mouvements d'extrême droite les plus radicaux. Alors, pourquoi ? Si vous regardez les commentateurs en Allemagne, il y a peut-être trois temps à expliquer rapidement. Le premier, on dit, c'est un peu de la faute à la RDA, en quelque sorte. Hein. C'est à la faute de l'Allemagne de l'Est. Pourquoi ? Parce que avoir vécu dans un régime autoritaire, sans culture démocratique, ça ne prédispose pas à affronter les opinions de l'autre, à affronter l'étranger. On dit aussi qu'en RDA, il y avait moins d'étrangers, ce qui est vrai qu'en RFA. Donc on n'est pas habitué à la présence hein, de l'autre. Et troisième accusation à l'écart de la RDA, c'est de dire qu'il n'y a pas eu non plus de véritable culture antifasciste. Elle était seulement officielle, mais on n'a pas fait un vrai travail pour assumer ses responsabilités. Donc il y a cette interprétation-là, qui à mon avis est très discutable. Il y en a une deuxième qui me paraît peut-être plus fondamentale, c'est de dire finalement, et d'ailleurs c'est dit par des élus locaux aussi de plus en plus à l'Est, c'est de dire ben non, c'est la faute à ce qui s'est passé depuis 1990. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas une Allemagne unie qui est en train, où tout est en train de se passer merveilleusement, aussi bien du point de vue symbolique qu'économique, l'Allemagne de l'Est existe toujours. Cette Allemagne de l'Est, elle existe parce que le taux de chômage y est beaucoup plus important, parce que les différences de salaire sont encore très fortes, parce qu'il y a tout un ensemble de procédés sur lesquels j'ai pas le temps de revenir, aussi bien dans le domaine des retraites que tout un ensemble de protections sociales, où les Allemands de l'Est se sentent victimes d'injustice. Bref, c'est une Allemagne à deux vitesses. Et l'expression qu'emploient tous les Allemands de l'Est, en tous les cas, beaucoup d'entre eux se reconnaissent dedans. Et j'ai vu récemment que 84% des électeurs de l'AFD la prenaient pour eux. Ils se disent citoyens de seconde zone. Et donc, citoyens de seconde zone, c'est pas de la faute à la RDA, évidemment. C'est de la faute, entre guillemets, hein, c'est des interprétations, à ce qui s'est passé depuis.
Les performances économiques ont quand même doublé depuis la réunification. Alors, j'ai vu un chiffre. Le PIB par tête est moindre à l'Est, quelque 73%
de celui de l'Ouest. Oui, et surtout les taux de salaire, si vous voulez, ça varie selon les branches, mais c'est dans beaucoup de branches inférieur à l'Est de 15 à 30%. Et puis, il faut rajouter quelque chose. Excusez-moi si je vous laisse une seconde.
Non, allez-y.
Pour comprendre aussi, si vous voulez, il y a aussi ce sentiment de ressentiment que l'extrême droite peut arriver à capter. C'est aussi le sentiment que la biographie de beaucoup d'Allemands de l'Est, depuis 1990, a été très dévalorisée. Ils ont le sentiment qu'on n'a pas pris en considération leur histoire propre, qui est celle d'avoir vécu dans un régime socialiste, qui est celle ensuite d'avoir connu à la fois les joies et les peines, évidemment, de l'unification. Et donc, j'ai vu qu'une députée et ministre SPD récemment appelle même à une commission nouvelle qui s'appellerait Vérité et Réconciliation.
Comme en Afrique du Sud.
Exactement, pour que tous les ressentiments, toutes les injustices qu'on subit ou qu'on considéré comme avoir subi les Allemands de l'Est, soit pris en considération. Donc vous voyez, il y a vraiment une vraie question de l'Allemagne de l'Est qui se pose et qui a plusieurs temps. Et puis le troisième temps, c'est évidemment la question des migrants, qui quand on a ce passé-là, quand on est déjà fragilisé, si vous voulez, par ce qui s'est passé depuis 90, quand vous voyez arriver des gens et que vous-même, vous n'êtes pas en sécurité, ça évidemment, ça renforce ce sentiment d'insécurité.
Même si la démographie est telle que l'économie locale a besoin. Il y avait un grand papier dans Le Monde il y a quelques jours expliquant qu'à Chemnitz, les petits entrepreneurs locaux n'arrivent pas à embaucher suffisamment, ou plutôt à garder des migrants en situation régulière. Donc,
oui, mais
c'est le paradoxe.
Vous avez raison. Oui, mais vous savez, ça, c'est quelque chose que les historiens savent bien. Les questions de représentation de l'immigration, et c'était le cas en France, les questions migratoires, c'est jamais la réalité de ce qui se passe.
Oui. Hein.
Par exemple, il y a un reportage qui était passionnant dans une ville que je connais bien, où j'ai enseigné 2 ans, qui est Francfort-sur-l'Oder. Il y a une quinzaine de Syriens, là, c'est un vrai acte de violence, hein, qui ont attaqué un club. Donc voilà. Et du coup, évidemment, vous imaginez, dans une petite ville de plus de 50 000 habitants, hein, une quinzaine de Syriens, une bande qui attaque un club. Et donc du coup, il y a beaucoup de débats. Le maire se demande que faire et est-ce qu'il peut utiliser un certain nombre de prérogatives qui sont les siennes. Et puis, à un moment donné, il dit mais arrêtez, il y a 15 Syriens, effectivement, ça pose une vraie question, mais il y en a 1300 qu'on est en train d'intégrer. Donc c'est toujours ce rapport-là. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui est très apparent et qui fait peur forme les représentations. Alors que les intégrations tranquilles, évidemment, sont beaucoup moins mises en avant. Donc les questions migratoires, le problème, vous avez raison de souligner, c'est que c'est toujours des représentations et pas la réalité. Le fait qu'on ait besoin des migrants, le fait qu'avec beaucoup, tout se passe très bien, évidemment, c'est souvent pas aussi bien vu par la population.
Bien sûr. Claire de Mesmer, tout ce bouquet, ce foisonnement de problèmes d'ordre divers sont évidemment sur le bureau de la chancelière qui, elle-même, doit affronter un calendrier politique, puisque il y a le congrès maintenant, il y a le congrès de son parti, je crois en décembre,
tout à fait, oui.
Le congrès de la CDU à Hambourg. Alors, est-ce qu'elle va se représenter? Il faut quand même rappeler qu'elle est à la tête de la CDU depuis 18 ans, la mouteux. Donc, est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle peut estimer que c'est peut-être le moment de transmettre le relais à la dauphine qu'elle s'est choisie, d'ailleurs, je crois.
Les questions de succession dans tous les domaines, c'est toujours un petit peu délicat. Et Angela Merkel a annoncé qu'elle souhaitait continuer,
diriger le
parti.
Que Schröder avait fait une grande erreur quand le chancelier à l'époque avait abandonné la présidence du SPD.
Exactement. Oui. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France, le fait que généralement le chancelier, la chancelière, soit en même temps un chef de parti, chef du parti pour lequel il a été élu, puisqu'on n'est pas élu chancelier. Ce sont d'abord des élections législatives. Donc, pour Merkel, c'est une question d'autorité politique, là aussi. Se poser en chef de l'État, parce qu'elle est aussi chef de parti. Donc, abandonner le parti, abandonner la présidence du parti, c'est évidemment un pari. C'est aussi quelque chose de dangereux. Et on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse allemande de ce pari-là. Est-ce que si elle abandonne la présidence, elle risque aussi d'être fragilisée en tant que chancelière? Donc, est-ce que c'est tenable, oui ou non, pour les prochains mois, pour les prochaines années? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une contestation. On sent surtout, je crois, qu'il y a une course pour se positionner pour l'après Merkel. Mais je pense qu'elle va encore rester et que toutes ces discussions sur le départ de Merkel est un petit peu précipitée.
Un peu prématurée, mais il y a aussi dans ce système parlementaire extrêmement exigeant un jeu de rôle et de fonction. Elle a quand même été très fragilisée par la perte de son bras droit, par l'homme qui tenait le groupe parlementaire au Bundestag, et c'est un autre qui a été qui a été élu et qui n'est pas nécessairement parmi ses plus zélés.
Oui. Vous avez raison de souligner cet élément, puisqu'on en a évidemment aussi beaucoup parlé. La question de Kauder, qui était donc le chef du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag, et qui devait, en tout cas Merkel souhaitait qu'il soit reconduit dans ses fonctions, les députés en ont décidé autrement. Donc c'était à ce moment-là, le vote d'un plus jeune, Brinkhaus, a été vu comme une contestation de cette autorité-là. C'est aussi un signal. C'est aussi pour dire qu'il se passe des choses dans le parti, que ça bouge et justement qu'on se prépare. Il y a ça, il y a la question de savoir comment vont se terminer les élections en Bavière, les élections en Hesse. Donc ça va évidemment avoir une influence sur la décision d'Angela Merkel. Et puis, il y a aussi la question du positionnement de la CDU aujourd'hui, puisqu'on a parlé de la Bavière avec une campagne qui est très à droite de la CSU. Mais il faut voir qu'en Hesse, la CDU risque de perdre des voix alors qu'elle a un positionnement très différent. La CDU se positionne sur des questions. Elle est plutôt au centre, elle est plutôt libérale. C'est un tout autre positionnement et pourtant, la CDU en S risque aussi de perdre pas mal de points.
Donc, il y a un Land où le candidat a dit que lui pouvait très bien gouverner avec l'AFD. Donc là aussi, on voit que les lignes frontières.
Exactement. C'est en Saxe dont on parlait à l'est du pays. Donc on a des CDU avec des identités régionales. Et aujourd'hui, la ligne à suivre, la ligne idéologique, la ligne politique pour les prochains mois et pour les prochaines années n'est pas claire. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui inquiète les électeurs ou qui agace. On ne sait pas exactement quelle est la ligne directrice aujourd'hui de la CDU. Et le fait qu'Angela Merkel ait souvent changé et fait évoluer le parti, qui est devenu, qui s'est positionné de plus en plus au centre sur les questions énergétiques, sur la question migratoire, sur la question du travail des femmes, de la garde des jeunes enfants, a déstabilisé pas mal d'électeurs dans le camp conservateur.
Mais il semble aussi que dans la presse allemande, il y a davantage de commentaires très personnalisés au sujet de la chancelière, ce qui n'était pas le cas avant, où en fait on dit, elle va très lentement, elle n'a pas de projet à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas une personnalisation plus grande de la critique politique aujourd'hui qu'auparavant?
Oui, on parle évidemment de son avenir politique à elle en tant que chancelière, en tant que chef de parti.
Ça fait 13 ans qu'elle est au pouvoir.
Exactement, ça fait longtemps qu'elle est au pouvoir. Et quand on compare avec d'autres démocraties européennes, on peut se dire qu'elle est encore en très bonne position dans les sondages vu la longévité. Mais oui, on parle évidemment de son avenir parce que, en principe, c'est sa dernière période au gouvernement et parce qu'on sent que dans le parti de la CDU, il y a ces doutes, il y a ces questions ouvertes et que pour l'instant, c'est elle qui incarne le parti. Et la question se pose, qui va incarner le parti dès que Merkel aura le dos tourné?
Hans Stark, vous estimez aussi qu'il est prématuré d'entourer Angela Merkel d'autant de à la fois de critiques et de prévisions sur son déclin.
Je pense que Mme Merkel n'a jamais été considérée comme quelqu'un qui travaille avec des visions à très long terme. C'est une femme très pragmatique qui agit face au plus pressant, beaucoup aussi face au sondage. Donc elle n'est pas du tout insensible à tous ces échos-là. Et à mon avis, il faut se garder de l'enterrer politiquement trop vite. Elle est devant un dilemme. Claire de Mesmer, à très juste titre, a dit qu'elle ne veut pas renoncer maintenant à la présidence de la CDU cette année 2018, c'est en décembre, mais la prochaine élection à la tête de la CDU, c'est dans 2 ans, 2020. Est-ce qu'elle sera encore en position en 2020 d'imposer quelqu'un qui correspond à son profil? Ne risque-t-elle pas, avec cet émiettement de son autorité politique, si elle se maintient à la tête de la CDU à partir de 2018, de se voir imposer quelqu'un qui n'est pas de son choix. Et donc, avec cela, elle perdrait finalement le profil qu'elle a imposé à la CDU en termes d'ouverture sur la société libérale et pro-européenne. Donc ça, c'est quand même un aspect dont il faut tenir compte. Il y a des élections, vous l'avez demandé tout à l'heure. Nous avons 3 élections régionales, en plus des élections européennes, mais 3 élections régionales en Allemagne de l'Est en 2019. Et la situation en Allemagne de l'Est est tellement compliquée avec la montée de l'AfD qu'on risque même se trouver face à une situation dans laquelle les partis dits républicains ne pourront pas trouver de majorité pour gouverner ensemble face à l'AfD d'un côté et face à la gauche populiste de l'autre. Ce qui a amené en effet la CDU en Saxe à se dire pourquoi pas faire une coalition avec l'AfD. Là, ils ont brisé un tabou terrible. Du coup, maintenant, nous avons une discussion comme à l'instar du RPR à l'époque. Faut-il, oui ou non, faire une coalition avec les forces de Le Pen? Nous avons aujourd'hui la même discussion aujourd'hui en Allemagne. Et donc, ça part un peu dans tous les sens. Et ça, c'est la grande difficulté.
Éric Scholl, patron de Courrier International, notre partenaire, vous avez trouvé dans la presse allemande beaucoup de signaux qui indiquent ce désir de renouvellement, sinon de génération, en tout cas de rafraîchissement du personnel politique.
Oui, et ce renouvellement est à l'œuvre, a commencé chez les Verts. Toute l'Allemagne, on le sait, aura demain donc les yeux braqués sur la Bavière, où c'est vrai, les Verts pourraient faire un très bon score. Et l'une des raisons de cette embellie tient bien sûr aux conditions politiques locales, mais pas seulement. Les Verts profitent aussi du renouveau de leur parti grâce à leur chef Robert Habeck et Annalena Baerbock. Au cours des 6 derniers mois, les deux dirigeants ont montré qu'ils pouvaient trancher avec le passé, s'enthousiasme le Handelsblatt. Ils ont mis fin à leurs querelles internes et ils paraissent plus concentrés. Alors selon la journaliste, Robert Habeck en particulier est perçu comme la carte maîtresse des Verts. Selon le Handelsblatt, cet ancien parlementaire régional, âgé de 50 ans, ministre de l'Environnement dans le Land du Schleswig-Holstein, possède un vrai talent pour montrer qu'il est tout autant intéressé par les succès électoraux à court terme que par faire avancer les sujets de fond. Ce docteur en philosophie est un réalos, comme disent les Allemands, c'est-à-dire il appartient à la ligne réaliste des Verts. C'est en tout cas l'homme qui monte.
Alors les sociaux-démocrates, le SPD, est en chute un peu partout en République fédérale, et cela asserre, semble-t-il, les rivalités et les ambitions nouvelles.
Exactement. On voit que le renouvellement, d'ailleurs, a déjà lui aussi commencé avec le départ de Martin Schulz et son remplacement par Andrea Nahles. C'était en avril dernier. Alors, comme l'écrit le Irish Times, qui lui a consacré un long portrait, l'homme fort du SPD est donc une femme, et c'est une première depuis plus d'un demi-siècle, depuis un siècle et demi. Andrea Nahles n'est pas une nouvelle venue en politique. Elle a rejoint le SPD il y a 3 décennies. Et jeune députée, elle combattait d'ailleurs les réformes néolibérales du chancelier Schröder, pourtant lui aussi social-démocrate. Depuis, elle s'est recentrée. Mais cette femme de 48 ans est actuellement en perte de vitesse. Elle est engluée depuis quelques semaines dans les affaires qui touchent le SPD. Alors elle tente de rectifier le tir, notamment avec cette interview parue jeudi dernier dans Die Zeit, dans laquelle elle s'interroge sur le sort de la Grande Coalition. Si les désaccords entre conservateurs continuent d'effacer tout le reste, viendra un moment où le travail que l'on fait n'aura plus de sens, dit-elle. Ces difficultés actuelles profitent à d'autres. C'est le cas de Franziska Giffey, à qui, cette fois-ci, c'est la Süddeutsche Zeitung, vient de consacrer un long portrait. Cette femme, cette quadragénaire, vient d'Allemagne de l'Est, comme Angela Merkel. Elle est ministre de la Famille dans le gouvernement fédéral et elle affiche un nouveau style, raconte le journal, proche des gens, proche du terrain. Et on parle d'elle déjà comme la future potentielle maire de Berlin. Mais ça ne sera pas avant 2021.
Et du côté des conservateurs, là aussi, il y a quelques jeunes loups qui manifestent leur impatience.
Oui, alors on mesurera évidemment mieux les rapports de force lors du prochain congrès de la CDU. Ça sera en décembre, après le test électoral de Bavière et après le test électoral de Hesse qui aura lieu dans 2 semaines. Ce qui est en jeu, explique le Spiegel, ce n'est pas seulement de savoir qui pilotera le parti dans le futur, mais aussi de voir si la CDU prendra ou non un virage à droite une fois Merkel partie. Or, poursuit le journal, personne ne symbolise autant cette contre-révolution que Jens Spahn, un député de 38 ans, opposant de la chancelière et actuellement ministre de la Santé. Mais comme le relève l'hebdomadaire, Angela Merkel a un atout dans sa poche. Ses adversaires ne sont pas encore suffisamment prêts. Même Jens Spahn le dit, « Je suis à présent connu, mais je dois aussi être aimé ». Or, c'est loin d'être le cas, relève l'hebdomadaire, au point que certains de ses amis s'avouent embarrassés par sa proximité avec le chancelier Sébastien Kurz en Autriche. Angela Merkel, elle, mise sur Annegret Kramp-Karrenbauer, celle que l'on surnomme en Allemagne AKK, et qui a été promue numéro 2 de la CDU, secrétaire générale. Mais précisément, le talon d'Achille de cette femme de 55 ans, c'est sa relation trop proche avec la chancelière, relève le Spiegel. Selon l'auteur, c'est d'ailleurs ce qui pourrait inciter certains qui avaient jusqu'à présent réussi à cacher leurs ambitions au sein de la CDU, eh bien, à postuler à la tête du parti.
France Culture. Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Henrik Utterweide, merci beaucoup d'être avec nous en duplex de Stuttgart. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Ce qui frappe évidemment, vu de France, c'est la santé économique florissante de l'Allemagne, même si les prévisions de croissance ont été légèrement revues à la baisse avant-hier, mais il y a un énorme excédent budgétaire, un énorme excédent commercial. Jusqu'à quel point est-ce que cette prospérité contribue à noyer en quelque sorte le débat politique, ou au contraire à permettre paradoxalement à l'extrême droite de se frayer un chemin inattendu?
Oui, c'est un paradoxe. Au moins, il faut dire que notre crise politique n'a pas de fond socio-économique, hein, sauf quelquefois à la marge. Les caisses publiques sont pleines. On a des marges budgétaires et ainsi de suite. Donc, c'est pas là. Et en plus, il faut dire que le gouvernement Merkel, depuis qu'il a commencé à travailler, il a quand même travaillé. Il n'y a pas que les scandales. Il a un agenda social important sur les retraites, y a la politique d'immigration, y a un plan dépendance, politique familiale, plan logement et ainsi de suite. Sauf que c'est complètement éclipsé par les polémiques politiciennes qui ont vraiment tenu le pays en haleine, et le gouvernement n'a pas réussi à mettre en avant cet agenda économique et social où il peut vraiment, où il doit d'ailleurs aussi agir pour rééquilibrer l'économique et le social, pour préparer le pays à l'avenir, climat, tournant énergétique, avenir de l'industrie automobile, par exemple, éducation, compétitivité. Tout ça n'est pas perçu par l'opinion publique. Et le gouvernement, jusqu'à maintenant, justement, avec ce côté nombriliste, politicien, n'a pas vraiment réussi à mettre en avant ses défis et son action politique. Et c'est ça qui est grave. Donc, Angela Merkel, si elle veut vraiment donner encore un sens à son dernier mandat, il reste 3 ans, ben, d'urgence, il faudra qu'elle se mette au travail, qu'elle mette le gouvernement au travail et qu'elle fasse savoir comment elle s'attaque aux problèmes, qu'elle donne une perspective pour les Allemands, où le voyage doit nous amener, pour ne pas parler de l'Europe. On n'a pas parlé d'Europe une seule fois pendant 7 heures. Et c'est quand même grave. C'est quand même grave. Hein, c'est grave. Donc là aussi, on attend ce gouvernement. Et donc, on attend vraiment ardemment que ce gouvernement d'Angela Merkel se fasse remarquer par le travail qu'il fait, par ses propositions et par la préparation de l'avenir économique, social et politique, tant qu'en Allemagne qu'en Europe.
Mais il y a une vraie frilosité sur l'Europe. Enfin, on a vu, il y a eu un espèce de rapprochement au moment où Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin récemment, mais on voit bien que la majorité parlementaire ne suit pas du tout les projets français. D'ailleurs, les Allemands ne sont pas les seuls. Hein. Il y a aussi les Néerlandais, enfin beaucoup de pays du Nord.
Il me reste 20 secondes avant d'être coupé. Je pense que c'est quand même plus mitigé. Et ce qui manque, et c'est un manquement grave d'Angela Merkel, ce qui manque, c'est un homme politique qui pose les questions européennes en termes clairs, comme l'a fait Emmanuel Macron. Et donc là aussi, on est en manque un peu.
Merci, Henrik Utterweide. Hans Stark, Jusqu'à quel point est-ce que Madame Merkel est freinée dans, comment dire, l'élan qui la rapprocherait des projets européens d'Emmanuel Macron, ou est-ce que elle ne partage décidément pas les analyses du président français quant à la nécessité d'un rebond, d'une refondation de cette Union européenne à l'approche des élections de mai 2019?
Je pense qu'elle voit très bien les fragilités structurelles de la zone euro pour avoir été quand même au cœur de différentes crises depuis des années et des années. Ce n'est pas une souverainiste, mais elle, ce n'est pas une fédéraliste non plus. Donc elle ne partage pas les, je dirais, les réflexions presque romantiques de l'Europe, comment elle devrait être dans un monde parfait, tel que c'est contenu dans le discours d'Emmanuel Macron de la Sorbonne, et surtout pas, parce que derrière, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a quand même le retour d'un certain nombre de positions anciennes de la France en termes de transferts financiers, notamment que les Allemands rejettent depuis des années.
Donc, sur le thème, oui, l'Allemagne paiera, voilà, mais ça, on n'en veut pas.
Mais c'est très gentiment dit, par contre. Donc c'est avec des tournures lyriques très, très particulières auxquelles on ne peut pas résister, en quelque
mais
sorte.
Mais aussi un projet précis sur
mais
des
derrière,
transferts
il y a quand même, on ne dit jamais transfert. Et d'ailleurs, oui. Bruno Le Maire dit très clairement, mais non, on n'a question absolument pas de transfert financier,
c'est
voyons.
Vrai, le mot est interdit. Hein, ouais.
Voilà, le mot est interdit. Mais la France insiste à juste titre là-dessus que, malgré tout, comme dans une fédération, il doit y avoir un système de pérécation financière, comme c'est fait d'ailleurs en Allemagne entre les Länder et pourquoi pas à l'échelle européenne. Donc, la question de la solidarité, que ce soit pour les migrations, que ce soit aussi pour un certain degré de répartition des richesses, le débat est vraiment nécessaire. Seulement, ça déplaît aux Allemands. Ça déplaît à Mme Merkel et ça déplaît surtout à son parti. Et là, entre en ligne de jeu ce nouveau personnage qu'on a tout à l'heure mentionné et qui, pour Mme Merkel, est à la fois une aubaine et une vraie difficulté.
C'est qui est donc Brinkhaus. Le nouveau chef du groupe parlementaire.
Voilà. Et donc, ce monsieur-là joue un rôle très important en Allemagne parce que c'est lui qui doit assurer les majorités parlementaires derrière la chancelière sur des sujets difficiles où elle pourrait devoir faire face à une fronde. Donc, ce personnage, c'est un personnage clé de la vie politique en Allemagne. Une aubaine, pourquoi ? Depuis maintenant quelques années, la chancelière Merkel se heurte à un résistant à l'intérieur de la CDU qui est un monsieur Spahn, ministre de la Santé, et qui veut sa
dont
tête
parlait Eric
et qui veut lui succéder
chronique, ouais.
À la tête de la CDU et si possible, le plus vite possible aussi à la chancellerie. Ce monsieur westphalien, bon, c'est pas de sa faute. Mais monsieur Brinkhaus est également westphalien, ce que monsieur Spahn n'avait pas prévu. Or, deux westphaliens, ça fait un de trop. Donc l'arrivée au pouvoir de ce westphalien monsieur Brinkhaus est une très mauvaise nouvelle pour monsieur Spahn, d'ailleurs qui a voté Kauder, évidemment, il n'est pas idiot, et madame Merkel qui était très affectée par l'élection de monsieur Brinkhaus et en même temps très contente parce que du coup ça écarte monsieur Spahn.
Donc alors, là voilà
pour
la
les cabales.
Comme partout
voilà
ailleurs.
Pour les pagales, comme on dit la politique politicienne. Mais cependant Brinkhaus est aussi un problème pour madame Merkel parce que c'est un éminent spécialiste des questions budgétaires et financières et il a été poussé à son nouveau poste par les milieux proches des petites et moyennes entreprises bien représentées au sein de la CDU-CSU et ceux-là ne veulent surtout pas entendre parler de transferts financiers, de réforme de la zone euro donc, avec un ministre, etc. Donc toutes les positions. Et d'ailleurs, ce bien Brinkhaus, si je termine, au moment où Merkel et Macron négocient ensemble à Meseberg au mois de juin 2018 un compromis franco-allemand immédiatement décrié comme insuffisant par la presse française. Ce même Brinkhaus, encore simple député, sort un papier qui déchire tous les compromis franco-allemands qui ont été réalisés à Meseberg. Donc ça veut dire que ce monsieur-là est sur une ligne très dure en ce qui concerne justement la réforme de la zone euro. Et je ne sais pas si son degré de loyauté maintenant en tant que chef du groupe parlementaire de la CDU-CSU le poussera à changer de ligne politique. On verra ça, mais j'en doute.
Nicolas Offenstadt, historien, vous avez beaucoup travaillé, vous avez enseigné en Allemagne de l'Est, ai-je envie de dire, en tout cas à l'Est de l'Allemagne fédérale. Jusqu'à quel point est-ce que cette montée de l'extrême droite dans cette partie-là de l'Allemagne bouscule des tabous qui cadenassaient quand même à la fois la mémoire allemande, le discours public allemand, on voit que la stratégie de l'AFD est aussi une stratégie rhétorique, c'est-à-dire que ce monsieur Gauland, qui est d'ailleurs né à Chemnitz, je crois, utilise des mots du vocabulaire nazi de façon délibérée. Après, il s'excuse mollement, mais enfin, en gros, les lignes du langage bougent.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de choses qui bougent. D'ailleurs, je vous répondrai peut-être à deux niveaux. D'abord, sur la question de l'Allemagne de l'Est et en général sur l'Allemagne et son rapport au passé, parce qu'effectivement, les choses changent. D'abord, effectivement, il y a des spécificités qui sont très importantes. C'est qu'effectivement, en Allemagne de l'Est, d'abord, il y a des choses qui sont autorisées qu'on ne voit pas à l'Ouest. Un exemple, avant même la montée de l'AFD, à partir d'extrême droite, hein, parfois proche des nazis, qui était le NPD, par exemple, était très implanté dans certains lieux, dans certains villages. Il exerçait même une forme de terreur locale. D'ailleurs, ils avaient formé un concept, hein, qui était celui de zone nationale libérée. Parce que démographiquement, je ne l'ai pas rappelé, mais l'Est a été très affaibli après 1990. Hein. Il y a plus de 1,8 million d'habitants de l'Est qui sont partis travailler à l'Ouest. Donc, il y avait beaucoup d'espaces libres, beaucoup d'espaces vides. Il y avait des espaces lâches où les services publics étaient moins forts, moins puissants. Et donc, il y a aussi une implantation très spécifique, hein, de l'extrême droite avant même l'AFD. Ce qui se fait qu'il y a des choses qui sont permises. Et notamment, on pense à un certain nombre de pogroms qui ont eu lieu après les années 90, hein, à Rostock, à Hoyerswerda et ailleurs encore, hein, qui étaient spécifiques à l'Allemagne de l'Est. Donc il y avait déjà un certain nombre de choses, hein, qui étaient très différentes. Petit rappel aussi, puisqu'on parlait d'Angela Merkel avant de vous répondre, mais j'y viens très vite. Vous le savez, elle est originaire de l'Allemagne de l'Est, Angela Merkel elle-même. Mais d'une certaine manière, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que, et ça c'est très important pour comprendre le ressentiment des Allemands de l'Est, il y a très peu d'élites en Allemagne qui viennent de l'Est. Donc Angela Merkel ne dit rien du tout, en quelque sorte, sur l'équilibre des pouvoirs. Hein. Et en Allemagne de l'Est, c'est l'Ouest qui a le pouvoir. C'est l'Ouest qui a le pouvoir dans les universités, c'est l'Ouest qui a le pouvoir dans les médias, hein. C'est l'Ouest qui a le pouvoir dans de nombreuses institutions politiques. Et donc il y a aussi ce sentiment d'être un peu, en quelque sorte, dépossédé
dans l'armée, pouvoir. Ajoute Claire de Mesmer.
Voilà, donc il y a tout un ensemble d'éléments. Et donc, encore une fois, ce déséquilibre des élites, hein, est quelque chose aussi de très dommageable dans la représentation qu'on se fait d'être gouverné par l'Ouest et donc de ne pas avoir accès au pouvoir. Et enfin, pour vous répondre, pardon d'être long, mais c'est des choses qui précident notre discussion. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau ? Oui, moi je le vois. Je pense que progressivement, hein, avec le temps qui passe, il y a ce que certains collègues allemands historiens appellent une forme de normalisation dans le rapport au passé. Vous savez, l'Allemagne a été extraordinairement déterminée, des deux côtés d'ailleurs, à l'ouest et à l'est, mais de manière différente, par l'idée de vraiment faire un travail sur le passé qui était fondé sur le plus jamais ça. Hein, sur l'idée d'un véritable, voilà. Alors, en Allemagne de l'Est, c'était l'antifascisme, hein, comme discours officiel, hein, ou qui était enseigné à l'école. Hein. Tous les enfants des écoles en Allemagne de l'Est allaient visiter des camps. On leur faisait travailler sur les biographies des communistes qui étaient morts dans les geôles nazis. Bref, il y avait un vrai travail officiel. À l'Ouest, c'était différent, mais là aussi, ça a été très important. Et puis, avec le temps, les générations qui passent, il y a peut-être une distanciation avec un travail historique proprement mémoriel, et les gens ont envie, en quelque sorte, de pouvoir parler de l'Allemagne autrement, que dans une forme de repentance. Et donc, du coup, on voit cette demande, y compris chez les historiens. Moi, je le vois, j'ai beaucoup de collègues historiens qui s'autorisent finalement des discours qui ne sont pas du tout révisionnistes, mais qui sont plus libérés par rapport à un politiquement correct qui était très important dans la construction de l'Allemagne.
Mais encore une fois, ce responsable de l'AFD, le Gauland, je crois que récemment, il a paraphrasé un discours d'Hitler avec des formules qui sont typiquement l'élite organisée contre le peuple, etc. Enfin, donc c'est une espèce d'Hitler light.
Oui, donc du coup, si vous voulez, ça s'inscrit effectivement dans une forme de conquête de l'Est, hein, en jouant sur ces valeurs-là du point de vue de l'AFD. Et puis effectivement, hein, sur l'idée aussi qu'il faut que le passé de l'Allemagne se normalise. Donc vous voyez, c'est assez habile, parce que ça joue à la fois sur ceux qui ont véritablement soit un ressentiment très fort, soit une idéologie marquée sur les points de vue des nazis, mais ça joue aussi sur ceux qui se disent il est temps quand même qu'on puisse parler de l'Allemagne un peu plus librement. Et vous savez, il a dit ça, mais il a dit aussi une phrase qui est très intéressante. Il a dit « L'Allemagne a le droit d'être fière de son passé comme les autres le sont ». Donc vous voyez, il joue sur les deux tableaux, et il a dit notamment cette phrase qui est assez ambiguë, mais qui vous montre leur habileté rhétorique et leur jeu sur la langue. Il a dit « L'Allemagne a le droit d'être fière des soldats de ces deux guerres mondiales ». Donc vous voyez, c'était intéressant, parce que après tout, c'est vrai que les soldats de la Première Guerre mondiale n'ont fait que leur devoir, qu'il n'y a pas de question particulière, évidemment. La Seconde Guerre mondiale, ça en pose beaucoup d'autres. Mais vous voyez, ça met une continuité allemande. C'est de dire finalement, on a une histoire comme les autres, Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit en disant le nazi, c'est finalement une fiente d'oiseau dans l'histoire de l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est assez habile parce que ça séduit les plus nazis et ceux qui ont du ressentiment, mais ça séduit aussi une frange de tout un ensemble d'Allemands qui ont envie d'une forme de normalisation du rapport au passé. Donc, c'est assez efficace. Hein. Et une collègue dans Libération des historiens qui accompagne les rendez-vous de l'histoire disait, il y a vraiment une question de la langue hein, qui se joue aussi. Et ça, c'est très vrai, c'est très juste et c'est aussi très dangereux, du coup.
Nicolas Offenstadt, merci d'avoir été avec nous depuis Blois. Je sais que vous devez retourner à vos admirateurs. Claire de Mesmé, cette stratégie de la rhétorique s'accompagne d'une réhabilitation d'une forme de fierté collective, mais avec énormément de fracas. Je lisais quelque part qu'il y a autour de la reconstruction du musée Humboldt, où doivent être regroupées les collections coloniales, parce qu'on l'a oublié, mais il y a eu brièvement,
bien sûr,
en Afrique centrale, un empire colonial allemand. Et là, semble-t-il, la polémique grimpe, parce que quel passé assumons-nous, en quelque sorte?
Oui.
Et ça, c'est très nouveau aussi, semble-t-il.
Oui, ben on parle quand même depuis un moment du passé de l'Allemagne, de l'identité de l'Allemagne, évidemment, mais on a une discussion sur les éléments de l'Allemagne de l'Est. Est-ce que l'histoire de l'Allemagne de l'Est est suffisamment tenue en compte? Est-ce qu'elle est intégrée? Est-ce que cette histoire, cette historiographie est tenue en compte? Est-ce qu'on en prend compte pour l'ensemble du pays? Ou est-ce qu'elle n'est pas marginalisée? Donc, c'est des questions du récit, du narratif. Dans quelle mesure les expériences collectives
Mais au-delà de l'Allemagne
Allemands
de l'Est, dont Nicolas Offenstadt nous parlait,
oui.
Au-delà de l'Allemagne de l'Est, est-ce que vous sentez, vous qui vivez là-bas et oui. qui fréquentez les élites politiques du pays, dans la capitale, est-ce que vous sentez cette espèce de glissement du discours, le fait que les coutures craquent en quelque sorte, dans lesquelles ont été contenues beaucoup de mémoires allemandes?
Oui, oui, mais dans les deux sens. Donc on parle en effet de, comme l'AFD, de la fin du culte de la du culte de la culpabilité. Donc ça, c'est vraiment une citation AFD. Donc la volonté de normalisation d'un côté, en effet, mais de l'autre côté, on commence à parler réellement de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Pendant très longtemps, c'était un sujet qui n'était pas abordé en Allemagne, ou très peu. C'était vraiment une niche pour les spécialistes. Aujourd'hui, on parle aussi des crimes de la colonisation. Donc, ce regard sur l'histoire est beaucoup plus va dans plusieurs sens. Donc, je dirais que c'est pas seulement réhabiliter le passé, c'est aussi se confronter à un autre passé, c'est ouvrir les yeux. Donc, on sent qu'il y a la volonté de regarder plus loin que ce qu'on avait vu pour l'instant.
Au-delà du rôle d'éperon que joue en quelque sorte l'extrême droite, désormais en Allemagne, et dont il faut tenir compte, j'étais très frappée par une expression du président de la République fédérale, M. Steinmeier, qui est donc, si ma mémoire est bonne, un ancien ministre des Affaires étrangères.
Tout à fait.
SPD, donc social-démocrate, qui disait, dans tous ces débats, et je le cite, « il y a comme un étrange désir de déclin ». Qu'est-ce que cela veut dire? Et ce sera la conclusion provisoire de cette discussion sur l'Allemagne d'aujourd'hui et de demain, puisque les Bavarois votent demain.
Oui, alors Steinmeier parlait d'un pessimisme collectif qui pousse une population ou une partie de la population à tout voir en noir et au lieu de se projeter dans un avenir dans un avenir collectif satisfaisant pour tous, avec un projet collectif, d'au contraire se tirer une balle dans le pied, si vous permettez l'expression. C'est une formule. Il est président de la République, il est chargé d'être la conscience morale de l'Allemagne, donc en même temps de faire des piqûres de rappel pour
galvaniser.
Ou galvaniser, ce serait un petit peu exagéré, mais en tout cas pour donner une orientation morale, une orientation politique à la société et à la politique allemande. Aujourd'hui, on est face à une Allemagne qui bouge, à une Allemagne qui change, avec en effet une discussion sur les valeurs, avec une discussion sur l'identité collective en tant qu'Allemagne, sur l'identité collective en tant que région, en tant que Länder, très important. Dans un pays où la Heimat est un véritable mot-clé, mais on a aussi toute une discussion sur la place de l'Allemagne en Europe, sur l'intégration européenne. Donc, on a une réflexion sur les questions d'identité à différents niveaux, et puis bien sûr sur les questions d'immigration, sur le vivre ensemble, sur l'intégration.
Et on verra donc ce que tous ces ingrédients vont provoquer dans les urnes bavaroises dès demain. Merci, merci à tous, merci à vous, Claire de Mesmer. Je rappelle que vous êtes responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère et vous publiez ces jours-ci « Idées reçues sur l'Allemagne, un modèle en question », c'est aux éditions Cavalier Bleu, et vous avez publié en 2016 aux presses universitaires du Septentrion « France-Allemagne par image interposée ». Merci à Anne Stark, secrétaire générale du Centre franco-allemand de l'IFRI, professeur à Paris 4. Vous avez co-dirigé avec Barbara Kunz et Stéphane Martels un ouvrage qui a été publié aux presses universitaires du Septentrion en 2017, « L'Allemagne sur la scène internationale en quête de stabilité dans un monde qui change ». Henrik Utterwede, politologue, chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, vous avez publié sur le site Telos un très intéressant papier intitulé « Fin de partie pour Angela Merkel », mais avec un point d'interrogation, bien sûr. Et puis, merci à Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui s'exprimait depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous avez publié chez Stock « Le pays disparu sur les traces de la RDA ». Les rendez-vous de l'histoire de Blois, eh bien, nous y serons. Avec Luc-Jean Reynaud et Meryl Moneghetti et Éric Scholl, bien sûr. Demain, dimanche, nous enregistrerons en public une émission Affaires étrangères sur le Moyen-Orient autour de Gilles Kepel, une émission qui passera à l'antenne samedi prochain. Je remercie au passage les équipes de la SWR à Stuttgart, celle de France Culture à Blois. Bien sûr, Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Élise Leu à la technique. Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, a préparé cette émission et mettra sur notre site de France Culture Affaires étrangères toute la bibliographie nécessaire pour ceux qui sont passionnés par la politique intérieure allemande. Très bon week-end et bien sûr, voici, comme chaque samedi, Hervé Gardette. À samedi prochain.